10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour. Même le dimanche, les gilets jaunes vont de nouveau manifester aujourd'hui dans les rues de Paris, départ à 11h de l'Arc de Triomphe, histoire de marquer les 3 mois jour pour jour de leur mouvement. Hier, dans la capitale, ils étaient plus nombreux que la semaine dernière, 5000 environ, pour un total national plus faible, 41 500. Mais ces chiffres officiels de Beauvau sont contestés par les manifestants. En province, comme à Bordeaux et Toulouse, des incidents ont éclaté, à Paris aussi, mais sans prendre l'ampleur de ces dernières semaines. Il y a eu aussi des dérapages plus sévères, comme à Rouen, où un automobiliste bloqué par une manif a perdu son sang-froid et a foncé sur la foule sans faire de blessés. Mais la violence a été plus grave au Mans, dans la Sarthe, où la permanence d'un député de La République En Marche a été entièrement saccagée, et à Paris, où le philosophe Alain Finkielkraut a été abreuvé d'injures à caractère antisémite. C'était dans le quartier de Montparnasse. Les injures condamnées d'ailleurs par Emmanuel Macron, jugeant dans un tweet qu'elles sont la négation absolue de ce que nous sommes et de ce qui fait de nous une grande nation. En Catalogne, pas de contestation sur l'ampleur de la manifestation des indépendantistes. C'est une marée humaine de 200 000 personnes qui a déferlé hier dans les rues de Barcelone pour soutenir la cause de l'indépendance, mais aussi pour dénoncer l'incarcération de certains dirigeants indépendantistes jugés actuellement à Madrid pour avoir organisé en 2017 un référendum d'autodétermination. Theresa May va retourner à Bruxelles la semaine prochaine. C'est reparti pour un tour pour la première ministre britannique qui veut rencontrer Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, alors qu'elle vient d'essuyer un nouveau revers de son Parlement à propos du Brexit. Et dès demain, son ministre chargé de cette sortie de l'Union européenne doit poursuivre les négociations avec Michel Barnier, le négociateur européen. Le soleil revient sur le football méditerranéen. Marseille a enregistré hier soir une 3e victoire consécutive en battant Amiens par 2-0, tandis que Monaco l'emportait sur Nantes 1-0 et sortait enfin de la zone de relégation de la Ligue 1 pour la première fois depuis septembre. Bonne journée.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Effectivement, ravi de faire cette émission encore avec vous en ce dimanche 17 février. Il fait beau, c'est un temps à aller faire du sport et notamment du vélo. Alors on va coller en plein dans cette actualité avec notre invité, le président de la section cyclisme de Poigny-Rambouillet, Olivier Bourdin. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Ça va, il fait beau, hein, c'est sympa là, on peut aller faire du vélo là, et puis du sport.
Oui, une bonne fin d'hiver là, c'est magnifique pour sortir.
Oui, et il va falloir appuyer sur le micro, j'ai l'impression que voilà. Donc je vais aller dire bonjour
fin,
Olivier.
Voilà, bonjour à tous. Oui, donc une bonne fin d'hiver qui va nous permettre d'entamer le début de saison du test Grand V maintenant.
Très bien. Alors, on va faire un petit peu le point de l'année écoulée. On va parler aussi de ce qui arrive en 2019. Il y aura encore un programme bien, bien riche et bien chargé pour le vélo dans notre région et sur Rambouillet. Combien d'années à la présidence ?
Ben, j'attaque ma 21e année.
21e année. Remarquez-nous, on fête bientôt les 31 dans l'émission, donc vous voyez.
Ouais. 21e année, on cherche toujours des suivants, mais voilà, il n'y a pas grand monde qui se porte à la porte. Hein.
Alors, je suppose qu'au bout de 21 ans de présence, les choses ont énormément changé, Olivier, dans la gestion du quotidien pour un club.
Oui, énormément changé dans la gestion du quotidien, dans les organisations, dans le relationnel, dans les sportifs, puisque les sportifs aussi, leur mentalité a beaucoup changé, hein, en 20 ans, énormément changé, passer du sportif, qui s'investissait au sportif qui gérait consommateur maintenant. Donc, il faut gérer, faut s'évoluer, faut se remettre en question, voilà. Donc, c'est pour ça qu'aussi, faut peut-être du sang neuf aussi dans un niveau, organisation du club, donc voilà, il faut essayer de retrouver des sources.
C'est plus difficile qu'avant ou c'est différent?
C'est différent, plus difficile dans certains secteurs, moins difficile dans d'autres, parce qu'avec, avec l'expérience, la maturité de certaines et la connaissance de gens, il y a des choses qui arrivent à passer plus facilement, donc on les aborde plus facilement. Mais comme il y a des nouvelles choses derrière qui sont de plus en plus difficiles. Des contraintes, donc au niveau organisation, en plus comme tout sport qu'on utilise les voies publiques, comme la course à pied, tout ça, donc c'est énormément de contraintes niveau organisation, avec les plans Vigipirate, la sécurité qu'il faut mettre en place. Donc là, il y a des contraintes plus compliquées et plus difficiles, et je dirais tous les jours, quoi. À chaque organisation, on a quelque chose en plus.
Alors, on va parler donc de cette année qui arrive. Elle commence quand la saison ? Week-end prochain, non ?
Le 3 mars. Le 3 mars,
d'accord.
La première course,
c'est dans 15
mars,
jours.
Voilà.
Dans,
pour nous, c'est le 3 mars. Hein, c'est donc la première course, ça sera du côté de Maule. Mm-hmm. Parce que c'est d'habitude, nous lançons la saison, mais cette année, nous avons repoussé la course d'Orphin au 31 mars pour oui. différentes raisons. Pour le temps, parce que ça fait 8 ans.
Ah oui, des fois, c'est pas évident. Fin février, il peut y avoir tout. Hein.
Ah ben, on peut y avoir tout. On a eu de la neige, on a eu des tempêtes, on a eu de la pluie, on a eu du gel, on a tout eu. Donc là, on avait décidé de reporter jusqu'à fin mars l'organisation. Puis les contraintes aussi, pareil, niveau parcours, niveau disposition de salles. Et en plus, nous avons Paris-Nice qui est dans la région, donc nous ne pourrions pas non plus ces week-ends trop surchargés.
Alors, en ce dimanche 17 février, il y a quand même, on va prolonger un peu l'émission de la semaine dernière. Il y a certaines manifestations dont on parlait la semaine dernière qui se déroulent donc ce dimanche. Depuis 9h, donc, a lieu au parking Leclerc de Rambouillet, le 124e réunion du rendez-vous de la Reine. Hein, c'est ces modèles de voitures anciennes qu'on peut aller regarder, visiter jusqu'à 10h30. Et ensuite, vous demandez où Pierre Buret ou Stéphane Camp. Et puis, vous pouvez monter dans la voiture et faire un petit tour avec eux. Ça, c'est à peu près jusqu'à 12h30. Et puis, en même temps, au stade du Vieux-Moulin, entre 9h30 et 12h30, il y a une grande séance d'entraînement, une grande démonstration privée de Bertrand Guillemin, qui est un grand maître au niveau de la section Aïkido. Donc vous pouvez aussi assister et même aller participer à cette grande séance d'entraînement en privé avec le grand maître d'Aïkido. Donc vous voyez, il se passe encore des choses aujourd'hui sur Rambouillet. Et puis tiens, je vais vous donner le résultat du Smith Bullion. On parlait de la course à pied, c'est une tradition Bullion. Bon, ça s'est déroulé dans des conditions beaucoup moins bonnes dimanche dernier que ce week-end. La victoire, elle est revenue à un Marocain, Saïd Lazare, en 1h11 minutes et 56 secondes, devant Mathieu Deschamps, 1h12 minutes 48 secondes. Saïd Lazare, il est de Nogent-le-Rotrou, alors que Mathieu Deschamps, lui, est de l'entente sportive Renault. Le troisième, c'est un non licencié, Guillaume Lecallier, en 1h13 minutes et 22 secondes. Et quatrième, c'est Nicolas Cuguerone de 3 Omnisports qui a terminé donc en 1h13 minutes et 38 secondes. C'est Julie Lecolter qui est la première féminine, 23e en 1h25 minutes et 57 secondes. Bullion, c'est un parcours que vous connaissez, hein.
Ben, c'est un parcours qu'on connaît, puis on va y retourner dans pas longtemps, puisqu'on expliquera certainement après pour le Tour des Yvelines. Donc, j'avais une réunion justement il y a 10 jours avec monsieur le maire, et qui était en pleine organisation du semi-marathon. Donc, une grosse organisation aussi de leur côté, hein, des contraintes aussi, hein, sur la route. Donc, une grosse organisation qui est bien rodée depuis quelques années, hein. Et comme on en parlait, ce que je lui disais, il y a beaucoup de coureurs qui viennent faire le semi-marathon de Bullion maintenant, parce que, on est à l'extérieur de Paris, on retrouve les plaines, les forêts, qui est vraiment un site magnifique pour courir. Et des préparations pour les semi-marathons ou les marathons de Paris, tout ça, c'est une bonne préparation.
Oui, puis jadis, c'était le premier gros semi-marathon, c'était le premier grand rendez-vous de l'année. Bon, maintenant, il y a tellement de courses. On a la corrida de Rambouillet qui a revu le jour au mois de décembre. On a le marathon des Yvelines sur Cernay-la-Ville début janvier. Donc bon, maintenant, c'est plus le premier grand rendez-vous de l'année, mais ça vient se mettre dans la lignée de toutes les épreuves donc de course à pied pour bien justement préparer et le semi de Rambouillet qui se déroulera dans un mois pile et le marathon des Yvelines.
Tout à fait. Et puis le semi de Rambouillet, il commence à y avoir maintenant, ils font le plein à chaque édition. Ouais. C'est parce que les gens ont besoin de retrouver ce côté nature et que, je dirais, on a la chance d'avoir dans le sud des villes vraiment un terrain magnifique pour courir, pour participer, pour faire du sport. Voilà, on a vraiment un terrain magnifique.
Oui, il y a des points communs justement entre la course à pied et le vélo. Vous avez fait un peu de course à pied, vous avez participé à des semis parfois.
Oui, j'ai participé lorsque j'ai arrêté de faire la compétition sur route. À un moment, il fallait continuer à faire du sport. Oui, parce que l'ambiance, c'est magnifique, hein, le départ, une bonne ambiance, beaucoup de non-licenciés, une très bonne ambiance, et puis ça fait du bien. Puis c'est vrai qu'on a, comme je dis, dans la région, on a la chance, hein, de pouvoir faire sur les pistes cyclables, dans la forêt, dans la plaine, des régions, c'est vallonné, c'est magnifique. Bon, et puis on a de quoi faire aussi.
Oui, puis la course à pied, c'est un des sports majeurs dans notre région. Il y a tellement d'épreuves parce que la région, elle s'y prête. Donc il faut avoir, comme vous, des autorisations préfectorales. Il faut aussi avoir l'autorisation des communes. Donc ça fait forcément des points communs entre organisateurs de courses à pied et d'épreuves cyclistes.
On a quasiment les mêmes contraintes. Ouais. Hein, bon, eux ils ont plus, puisque c'est une plus de masse, hein, puisqu'ils arrivent à des 1500, 1700 participants, donc c'est encore une contrainte majeure à gérer. Mais oui, ce sont les mêmes contraintes, hein, les mêmes contraintes. On arrive dans la ceinture de l'Île-de-France, entre l'Île-de-France et la plaine, j'irai entre parenthèses. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de manifestations sur route, course à pied ou vélo, qui ben sur le terrain font. J'espère que tous les ans, j'irai, on les anciens disaient que dans, il y a 30 ans, on faisait des courses dans le cœur de Paris. Au fur et à mesure, on s'éloignait. Après, c'était la ceinture de Paris, le 92, 78. Et maintenant, on arrive dans la ceinture, j'irais, du 78-28, puisque voilà, on repousse systématiquement avec les contraintes d'organisation, de sécurité. Donc, j'espère qu'on va s'y arrêter, parce que sinon, dans 15 ans, malheureusement, on sera surchargé. Et il faut qu'on fasse très, très attention à ces niveaux aussi planning, ne pas trop non plus trop surcharger nos secteurs, parce que après, ben, on va avoir les contraintes, ben, des gens, des habitants de notre région qui vont se dire, bon, ça va un peu, c'est bien sympa, mais quand on abuse, après, voilà, ça devient une contrainte aussi. Donc,
faut alors, il y a de plus en plus d'épreuves de course à pied, malgré toutes les difficultés administratives, mais il y a de moins en moins de courses de vélo.
Bah oui, parce que bon, les courses de vélo, c'est aussi pareil, hein, moins en moins de courses de vélo. Moins en moins aussi, je dirais, malheureusement, dans le monde du vélo, moins en moins de concurrents pour faire de la compétition.
Oui. Alors qu'en course à pied, c'est l'inverse.
Parce que la course à pied, c'est plus, j'irais...
chacun peut trouver ça.
Voilà, ouais. Chacun peut trouver. Ce sont des non-licenciés, on peut s'inscrire sur place. La course de vélo, il y a des contraintes encore, niveau, même si on peut...
On peut trouver son défi. On peut trouver son défi.
Donc, beaucoup de compétiteurs de course de vélo se sont orientés maintenant sur des cyclosportifs.
Voilà, c'est peut-être ça l'avenir.
Voilà, c'est l'avenir. Je pense que malheureusement, c'est un peu ça. Malheureusement, bon, c'est bien parce qu'on découvre des beaux paysages. Donc, on a de plus en plus de cyclosportifs qui se créent. Et donc, moins de courses compétiteurs. Les gens préfèrent faire un défi sur une course, hein, même un Paris-Roubaix, un Tour des Flandres. Voilà, ils préfèrent faire ces grands défis que de venir faire de la compétition. Parce que moins de compétition, des risques, des contraintes. Voilà. Donc, c'est un peu un changement qu'on disait tout à l'heure. Et qui fait moins de concurrents, moins d'adhérents dans les clubs. Donc, moins de force auprès des dirigeants pour pouvoir organiser avec les contraintes qu'on a de niveau organisation.
Alors, comme on donne toujours les résultats des épreuves dont on parle, hein, on va rappeler qu'il y avait 250 coureurs classés à Bullion, et le dernier, c'est Pierre Titeka, il aura l'honneur de notre micro, 1h46 et 13 secondes. Le rendez-vous de la reine dont on parlait sur le sport des voitures anciennes, et puis cette démonstration de Pascal Guillemin avec l'aïkido, c'est bien que ça bouge aussi dans Rambouillet comme ça.
Mais Rambouillet a toujours bougé, énormément eu de manifestations, a toujours été favorable, hein, justement pour ces rencontres. Et ben Rambouillet a su s'adapter, j'irais, aux contraintes, malheureusement de sécurité qui est en place. Hein. Il faut toujours rester dans le domaine qui nous est octroyé. Mais Rambouillet a toujours eu une activité avec, je crois, plus de 100 associations. Donc, il y a de quoi faire, hein, gérer, et même une gestion que ça espère arriver à bien faire. Parce que c'est pas évident de gérer toutes ces associations et toutes ces manifestations.
Donc, vous n'oubliez pas, depuis 9h30, à commencer cette grande démonstration et séance dans le privé d'entraînement avec Pascal Guillemin et la section Aïkido, donc au gymnase de Vieux-Moulin. Et puis, il y a en même temps, depuis 9h, donc, l'exposition des voitures anciennes avec la 124e édition du rendez-vous de la reine, c'est sur le parking Leclerc de Rambouillet. Bon, vous, votre saison, elle commence le 3 mars. Comment vous l'abordez ?
Ben, on l'aborde, comme les autres, avec une charge cette année qui va être encore un peu plus importante, puisque c'est une année avec le Tour de France qui va nous faire une manifestation majeure à organiser. On essaye d'étaler nos compétitions à nous, et puis gérer, comme je disais tout à l'heure, moins de compétiteurs au niveau adulte. On a plus de jeunes, donc on se réorienter, hein, puisqu'on a, en tout cas pour notre club, on a pas mal d'adultes qui ont arrêté de faire la compétition mais qui continuent de faire des cyclos sportifs, mais donc plus de jeunes qui vont aller à la compétition, donc il faut se réorienter différemment.
Vous êtes combien cette année au club de licenciés?
Là, on en est à 22 adhérents cette année. Tout en sachant qu'il y a des adhérents qui viennent un peu plus tard dans la saison, quand il fait un peu meilleur.
Ah bon, il y en a qui s'inscrivent comme ça
Pratiquement jusqu'au mois de juin. On a un ou deux par-ci, par-là.
22, c'est pas énorme, Olivier. On a connu beaucoup mieux.
On a connu beaucoup mieux. Ce que je disais, il y a beaucoup moins. Les jeunes, ils reviennent, mais les adultes s'en vont plus vers des cyclosportifs, vers des. Il y a beaucoup moins. On a de la piste aussi un peu plus maintenant.
Oui, on va en parler aussi.
Mais ouais. Bon, ça n'enlève pas tellement de sportifs. Hein. Et, bon, ils font les deux, ils arrivent à cumuler les deux. Mais beaucoup, comme je disais, beaucoup d'adultes, bon, maintenant les contraintes aussi familiales, les contraintes de travail font que ben on a moins de compétition et on privilégie le sport loisir et qu'il y ait moins de contraintes, donc faire les cycles sportifs un peu plus tard.
Alors 22 licenciés, quelle est la tranche d'âge ?
Bah ça va du jeune de l'école de vélo qui a 6 ans jusqu'à jusqu'à ben le plus ancien qui doit avoir 56 ans là.
C'est une école qui est chère à l'UQAMI, hein, cette école de vélo, hein.
Ouais, qui est chère. Qui se monte, donc on essaye de faire des projets sur Tour de France. Bon, on en a du mal un peu les faire adhérer les jeunes, mais bon, on va essayer.
Donc les jeunes y restent, ces jeunes qui débutent comme ça, qui viennent dans l'école de vélo à 6 ans, ils viennent. Ils restent ou alors ils vont vers d'autres sports comme beaucoup.
On a les deux. Des jeunes. On a des jeunes là qui sont cette année ils sont cadets, donc ils ont commencé l'école de vélo, ils ont continué un minime cadet. Et puis il y en a des jeunes, ils vont changer. Hein, c'est aussi un peu la nouvelle génération qui font qu'on veut voir un peu tout, toucher un peu à tout. On veut faire aussi bien niveau culture, niveau musique, niveau sport, Et dans le sport après on peut voir différentes choses. C'est la vie qui fait qu'il change. C'est pour ça qu'aussi on a moins de réservoirs pour les adultes, parce que les jeunes aussi arrivent moins. On a connu des courses de minime cadet à 60, 80 au départ. Maintenant, quand on en a 30, on a fait une super course. Donc voilà, donc on a moins de jeunes qui adhèrent aux compétitions.
Et donc, ceux qui veulent faire la compétition, c'est à partir de quel âge?
La compétition, on peut faire des compétitions d'école de vélo, hein, donc c'est à partir de 6 ans, il y a des rencontres école de vélo qui se font de 6 ans jusqu'à 12 ans, puis à partir de 12 ans, minime, cadet, là il y a les compétitions pratiquement tous les week-ends.
Avec des calendriers un peu différents quand même, on commence un peu plus tard la saison minime, cadet, non plus maintenant ?
Plus maintenant, là, je dirais les minimes et cadets commencent quasiment en même temps que les seniors, c'est un peu bon, mais bon. Mais ça a évolué aussi, puisque maintenant, les minimes cadets peuvent faire des cyclocross. C'est pour ça donc il n'y a plus d'interruption de compétition. Peut-être ça aussi qui fait que on arrive à avoir un peu, au mois de mars à avril, des jeunes qui baissent les bras, qui arrêtent, parce que ils n'arrêtent plus non plus l'hiver. Ça leur fait faire voir d'autres disciplines, mais ça peut donner des contraintes aussi, physiques aussi, hein, parce qu'ils sont en pleine croissance, et donc il faut faire très attention de ce côté-là.
Il y a beaucoup d'organisations aussi pour les jeunes, minime cadet.
On essaye en permanence d'avoir, quand il y a une compétition senior, d'avoir une course
en même temps, avant, quoi. On fait tout dans la même journée.
À 75-80%, il y a en même temps qu'il y a une course adulte et une course de jeunes. Après, c'est plus ou moins compliqué. Comme je disais tout à l'heure, avant, on pouvait avoir 60 coureurs en minime ou en cadet. Donc, c'est vraiment leur course à part. Maintenant, on essaye de gérer, de les mélanger avec des anciens, entre parenthèses, pour étoffer un peloton. Puis, ça leur donne un peu de connaissances.
Oui, ils s'arrêtent un peu avant. Et puis, ça évite de devoir bloquer peut-être la route trop longtemps, quoi. C'est ça le problème.
C'est les contraintes qu'on a aussi à côté.
Oui. Donc, si on veut venir vous rejoindre, c'est pas encore trop tard, Olivier. Quel est le prix d'une licence et d'une cotisation ?
Une licence, c'est on a plusieurs fédérations. Hein, en FSGT, c'est dans les 50 euros. En FLC, ça varie de 50 euros jusqu'à 120 euros selon le niveau. La cotisation est de 85 euros. Voilà. Puis après, nous, on fournit un équipement, un maillot, un cuissard. Et puis les compétitions, les entraînements, les compétitions.
Et ça va durer jusqu'à fin septembre, début octobre. Hein.
Les dernières courses sur route, c'est au mois d'octobre. Après, on enchaîne quasiment 15 jours après sur les courses cyclocross.
On n'est pas obligé.
On n'est pas obligé, mais après, il y a les spécialistes. Il y a les spécialistes qui commencent à faire de la compétition, juillet, pour être en forme au mois de septembre. Et ils font les saisons cyclocross.
C'est bien, ça veut dire que les cyclocross ne sont pas morts. Parce que il y a eu un gros creux. Voilà. Hein, et c'est bien, ça prouve que certains se spécialisent et puis que sa discipline, elle est en train de renaître.
Voilà, une renaissance du cyclocross, c'est vrai que c'est une bonne chose, parce que c'est magnifique aussi. Hein, des compétitions cyclocross, c'est des fois des conditions sous la pluie, sous le vent. C'est pas génial, mais on adore, il faut aimer. Et puis en plus, en troisième discipline, on a la piste aussi maintenant.
On va en parler aussi,
La compétition sur piste qu'ils font maintenant, quasiment tout le long de l'année.
Alors ce qui est important, c'est que l'école de cyclisme, elle fonctionne le samedi.
Le mercredi après-midi.
Le mercredi après-midi.
Mercredi après-midi et le samedi après-midi.
D'accord, ok. De quelle heure à quelle heure, en gros?
Bah, de 13h30 jusqu'à 15h30 pour l'école de vélo. Après, on enchaîne avec les minimes cadets. Et le samedi, c'est pareil.
Donc, c'est-à-dire, on roule un peu, on fait quelques jeux, on voilà, travaille sur l'adresse.
Voilà, donc, on a quelques jeux, là. Ça, l'école de vélo a été repris par Grégory, puisque Luc est un peu indisponible pour le moment. Donc, Grégory, ben, voilà, c'est des activités de jeux, gymkhana, sorties dans le parc en VTT. Et après, donc, on a David aussi, David Ossan, qui a repris les minimes cadets. Qui entraîne ben, les jeunes sur des sorties dans la région.
Alors vous parliez du prix de la licence, c'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une licence multifédération.
Non. Parce que chaque fédération a encore sa licence, voilà.
D'accord.
On a trois fédérations.
On choisit, quand on se licencie chez vous, on choisit ou FFGT, ou FFC, ou UFOLEP.
Bah, UFOLEP, on ne fait plus, parce que dans la région, il n'y a plus beaucoup d'UFOLEP. Hein. En compétition cycliste, dans les Yvelines, il n'y en a quasiment plus. Donc oui, on peut prendre une ou deux licences, après gérer le niveau qu'on décide. La FFGT est beaucoup plus abordable, niveau sportif et niveau financier. Parce que bon, c'est les premières licences. On peut commencer à voir si on veut faire la compétition, commencer par FFGT, voir, et puis si après on se sent bien, bah, prendre une licence FFC qui a un niveau supérieur.
Ouais, c'est-à-dire que les distances sont plus longues en FFC.
En FFC plus longues, et puis voilà, bon, et puis les compétiteurs sont un peu plus haut, quoi, un niveau un petit peu plus haut.
Ouais, et puis il faut s'inscrire bien avant, je crois. Alors que UFOLEP, c'est pratiquement, j'allais dire, sur place, quoi, FFGT, je veux dire.
C'est ça un peu le problème aussi, mais bon, ça commence, vu qu'il y a moins d'organisation, en FFGT, c'est ça, on peut s'inscrire sur place, hein, beaucoup, dans 75% des cas, mais maintenant ça diminue parce que les compétitions, vu qu'il y en a beaucoup moins de compétitions, elles sont souvent pleines, qu'on appelle complètes, pratiquement 5 jours avant la compétition, puisque ben, avec la réglementation préfecture, on est limité au nombre de coureurs. Donc avant, lorsqu'il y avait la FFC qui avait beaucoup de compétitions, la FFGT, donc on arrivait à accumuler, à trouver ces compétitions le jour même. Maintenant, il faut se méfier, des fois il y a des coureurs qui arrivent, ben non, la course est complète. Même s'ils sont pas contents, mais après nous on est sujet à un règlement préfectoral, donc on ne peut pas prendre plus de coureurs parce que niveau assurance.
C'est un peu comme on parlait de la course à pied, c'est pareil, hein.
Voilà,
on limite.
Il faut limiter, ouais. On est obligé de limiter. Donc c'est pour ça que c'est vrai que la FFGT niveau organisation peut s'inscrire encore sur place. Même la FFC depuis 4 ans maintenant, ils évoluent un peu, même si c'est long à évoluer hein, niveau FFC. Ils sont un peu encore, même on n'a pas encore les licences en informatique, alors que la FFGT l'ont depuis 10 ans, hein, pour vous dire. On va peut-être s'y mettre l'année prochaine, mais voilà, c'est compliqué. Mais donc, vous voyez, la FFC maintenant accepte, toujours pareil, dans le domaine du nombre de places disponibles, de pouvoir prendre une licence sur place, bien sûr, avec un certificat médical et qu'il faut s'inscrire auprès du commissaire.
Mais on peut avoir des courses mélangées, FFC, FFGT.
Alors, dans un sens, oui, mais pas dans l'autre. C'est-à-dire que nous, la FFC n'accepte pas.
C'est pour grand public, hein,
voilà.
Public.
Nous, on a beaucoup de courses en FFGT, on accepte les coureurs FFC.
D'accord.
Nous, notre but, le principe, c'est que les gens puissent faire leur loisir, leur compétition. Donc, nous, on ne veut pas vraiment faire de barrière entre les fédérations. Donc, nos courses FFGT sont ouvertes aussi à FFC. Bien sûr, en priorité aux gens FFGT, mais sont ouvertes. C'est-à-dire que les coureurs FFC, ils sont limités à 3 courses dans l'année pour faire, mais ils peuvent faire 3 courses en FFGT dans l'année. Alors qu'en FFC, non, on est obligé de prendre une licence FFC. On ne peut pas y avoir qu'une licence FFGT s'inscrire sur. Voilà, on peut le faire, mais pareil, en prenant une licence à la journée, c'est tout.
Allez, on descend de bicyclette, on marque une petite pause musicale, une petite page de pub, et puis après, bah, on repart faire quelques kilomètres. Allez, on y va.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11. À Rambouillet, 14 rue Châle, et c'est ma fenêtre, votre spécialiste ISO France vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres, stores, volets, portes d'entrée et portes de garage, sur mesure, en PVC, bois, alu et mixte. Et c'est ma fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste et c'est ma fenêtre, 14 rue Châle, à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb, Loi Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnostic.fr.
Loneliness, before I knew what it was, on the table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Shoulders, tell me what you see.
Olivier, le vélo, c'est un sport cher et c'est aussi un sport à risque. Est-ce que ce n'est pas le désavantage de vos disciplines ?
Ben, du niveau discipline, c'est pour ça aussi on a eu du mal à une période d'avoir des jeunes, hein, parce que venir sur la route...
il faut prendre la route déjà.
Voilà. Niveau sécurisation, on connaît que le nombre de voitures augmenté, les incivilités des voitures. Bon, il y a aussi des coureurs, il ne faut pas se leurrer. Des fois, on n'est pas tout rose non plus. Les coureurs ne sont pas faciles, même certains sont très compliqués à gérer. Donc c'est une catégorie de personnes. Donc oui, c'est un sport un peu dangereux. Donc oui, un peu cher. Ben oui, c'est il faut
parce
du matériel.
Que,
donc,
bon, vous avez parlé du prix de la licence, mais après le vélo, l'équipement, il est à la charge du pratiquant, quoi.
Voilà, le vélo, l'équipement. Ouais.
Combien un vélo? Bon, pour faire de la compétition.
Maintenant, les prix ont énormément descendu, par rapport.
3 000, 4 000 euros?
Oh, maintenant, j'irais pour faire le début de compétition à 1 500 euros, on arrive à avoir des beaux vélos maintenant.
Mais après, il faut quand même, les rechanges, on crève, on casse du matériel.
faut l'entretenir, il faut, bon, quand on va aux courses, il faut acheter un peu de ravitaillement, il faut des choses comme ça, il faut se déplacer pour aller aux courses.
Alors ça aussi, ça coûte de l'essence pour les parents, souvent, d'emmener leur,
du temps, de l'essence, parce que je dirais, comme on disait depuis tout à l'heure, il y a moins de compétition. Je dirais maintenant, pour faire la compétition, il n'est pas rare de faire 80 km pour aller faire une compétition, donc 80, 120, 160 pour revenir. Donc voilà, ce sont des contraintes qu'on a, je dirais, que dans d'autres sports on n'a peut-être pas, parce que quand on est dans des stades, c'est moins compliqué, c'est plus facile d'organiser avec un car.
On parlait encore de la course à pied, il y a une paire de chaussures et c'est bon.
Une paire de chaussures, voilà. un short, un t-shirt, voilà, et on part plus facilement. Voilà, c'est plus facile. Et même niveau entraînement, je dirais qu'on veut s'entraîner une course à pied, on peut
une heure et demie maximum. Voilà.
Même le soir,
le vélo, c'est 3h, 4h. Hein.
Voilà, une petite sortie d'une heure, c'est à peine l'échauffement, on dirait en compétition. Donc, puis la course à pied, des fois on peut s'entraîner sur les stades, donc ils sont encore éclairés le soir, on peut plus facilement. Bon, c'est vrai que maintenant avec la piste, on peut aussi avoir des entraînements de piste. Hein, beaucoup de coureurs se sont retournés de ce côté-là pour ce bien-être.
Alors justement, on parlait de la piste, on a un outil qui est fabuleux, hein, c'est le Vélodrome de Saint-Quentin. Il y a presque 4 ans, jour pour jour, on était en plein championnat du monde. Déjà, beaucoup utilisent maintenant ce Vélodrome et beaucoup font la compétition. Il y a beaucoup d'épreuves sur piste.
Beaucoup utilisent le Vélodrome parce que il y a des créneaux dans les raisonnables des créneaux, puisqu'on est limité un nombre de coureurs sur une piste, hein, on peut pas être plus normalement c'est 22 en deux pelotons, on arrive à monter à 40, mais il faut vraiment faire deux pelotons distincts, donc c'est vraiment limité. On a des créneaux, puisqu'en plus il y a des créneaux qui sont réservés pour l'équipe de France, hein, puisque l'équipe de France, maintenant le pôle France est installé juste à Saint-Quentin, donc il y a des créneaux qui sont réservés pour le pôle France, pour les compétiteurs et pour les baptêmes aussi, hein, puisqu'on peut faire un baptême au Vélodrome.
Alors ça, c'est le grand public.
Toute personne peut venir.
Un cadeau d'anniversaire.
Pour aller 20 €, tout compris avec le matériel. 20 €, vous venez faire votre baptême en une heure, vous faites votre baptême et puis vous arrivez à monter même une zone pédagogique qui est très, très intéressante. Vous arrivez à bout d'une heure à monter en haut de la piste. Hein. Donc c'est très intéressant. Oui, donc il y a les compétiteurs qui viennent s'entraîner souvent. L'hiver, gérant les créneaux, hein, le plus avantage, c'est qu'on peut, comme je disais tout à l'heure, même s'il fait nuit, on peut s'entraîner.
Et ça remplace une bonne séance sur la route. Hein.
Deux heures de piste, ça vous fait 3h30 de route, hein, parce que là c'est 2 heures continues, on n'a pas de temps de roulis, donc et il fait chaud. Et mine de rien, s'il y a des montées, hein, on a un bon petit dénivelé, hein, quand on fait 2 heures de vélo, on a un bon petit dénivelé, parce qu'avec les virages qui montent, qui descendent, ça fait un bon petit dénivelé, hein, niveau vélo. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal d'entraînement maintenant aussi sur la piste l'hiver.
Et il pourrait y avoir des coureurs qui se spécialisent sur la piste, comme certains se spécialisent dans le cyclocross, et accompagner tous ces coureurs-là dans un club.
Oui.
Ça s'est fait à une époque.
Ça se fait. Ouais. Hein, dans certains clubs, il commence déjà à avoir des sections qui commencent à se créer uniquement de pistes. Et en complément, alors, ils font la piste et en complément, ils font de la route pour faire du foncier. Comme la route font en complément de la piste l'hiver pour faire l'entraînement. Donc on a les deux. Hein. Non, il y a des sections qui se créent spécifiques. Bien sûr, il faut avoir un club assez dimensionné, il faut avoir pour un encadrement. Mais oui, ça peut se faire, ça se fera. Parce que maintenant, la compétition piste se développe. Maintenant, on a de plus en plus de vélodromes couverts en France. Donc, il y a des compétitions qui sont tout le long de l'année. Donc, ça devient intéressant. On peut avoir une saison complète dans l'année, hein, maintenant, avec les différents vélodromes. Entre Saint-Quentin, Roubaix, on a dans le Loiret, dans le centre de la France. Ça commence vraiment à bien se développer.
Oui, on parlait des championnats du monde. Il y a eu après les championnats d'Europe en octobre 2016. Et puis, il y a des épreuves maintenant qui se déroulent de temps en temps. Notamment une épreuve de Coupe du Monde qui a eu lieu au mois d'octobre l'année dernière.
Oui, tout à fait. Et puis c'est bon, le vélodrome s'y prête. Hein. C'est l'un des premiers vélodromes de cette dimension. Maintenant, les nouveaux vélodromes, ils essayent de faire un peu la même chose. C'est-à-dire que la piste est un peu plus large, niveau vélodrome moderne. Donc, puis la Coupe du Monde, c'est magnifique. Hein. C'est un petit championnat du monde, faut pas se leurrer. Ce sont les mêmes acteurs, les mêmes compétiteurs. Donc, c'était une bonne période. C'était 5 jours. Bon, ce qu'il faut regretter dans notre région, c'est le niveau publicité. On n'arrive pas. Niveau communication, on a vraiment un gros problème sur Saint-Quentin. Là, mais c'est depuis le début qu'on l'a. À part le gérer la championne du monde, mais bon, là, c'est un niveau international.
Donc, énorme caisse de raisonnement.
Voilà.
Hein.
Non, mais puis niveau international, il n'y a pas de souci. On pouvait le remplir 3 fois, mais toutes les autres compétitions, on a un gros problème de communication. Là, il y a vraiment un travail à faire au niveau de la Fédé, niveau Vélodrome, niveau sportif français, parce que.
La Fédé fait ce qu'elle peut, mais elle n'est pas. J'allais dire, c'est pas elle. La patronne.
C'est pas la patronne, mais bon, ensemble de personnes qu'il faut qu'ils se mettent autour de la table et qu'on y fasse, qu'on arrête aussi des griefs entre fédérations, propriétaires, exploitants, voilà. À un moment, il faut qu'on s'y mette, il faut le remplir. Si on veut que ce vélodrome fonctionne, il faut le remplir, il faut le rentabiliser. Plus on rentabilisera, plus on aura de compétition, parce que faire une compétition quand on est au niveau, club amateur, c'est quand même, il faut sortir, excusez-moi du mot, il faut sortir un billet de 5 à 6 000 euros pour une demi-journée. Donc c'est pas possible actuellement, c'est pas possible. On a certains clubs qui y arrivent parce que bon, ils arrivent à recouper des budgets. Mais niveau club amateur, on arrive à faire que 6 compétitions dans l'année. C'est bête. Je vais peut-être pas prendre l'exemple puisque là-bas c'est vraiment le temple du sport. On allait à Gand, c'est tous les samedis vous avez une compétition.
Bah oui.
Et quand on discute, moi j'y suis allé plusieurs fois, quand on discute avec le club, oui, ça leur coûte 150 euros pour la compétition. Ça leur coûte juste le fait d'utilisation. Bon, après, c'est une gestion qui est complètement différente. Donc, ben, ce vélodrome, certainement arrivé, ils en ont fait 2 vélodromes à Gand. Mais nous, on a un gros problème niveau communication, niveau exploitation de ce côté-là. Bon, là, ça a changé depuis le mois de septembre. Maintenant, c'est l'UCPA qui a récupéré la gestion. Donc, on va voir si peut-être une
nouvelle. C'est gestion. La troisième équipe différente. Hein. On avait connu Arnaud Zumagia. Bon, après, une équipe est arrivée derrière. Et puis là, donc, troisième équipe
qui vont évoluer, qui vont y arriver. Mais c'est vrai que c'est un magnifique outil hein, qui a quand même coûté plus de 20 millions d'euros. Oui. Il faut l'utiliser parce que maintenant c'est un projet Bouygues. Maintenant, dans 20 ans, Bouygues le rendra. Il faudra dans quel état il faudra qu'il le rende. Mais si on n'arrive pas à le gérer, j'ai une crainte moi sur l'avenir.
Bon, il va servir pour les jeux, mais c'est vrai qu'on essaye de le rentabiliser. On a du mal. Ça suffit pas le vélo. Donc on essaie de l'ouvrir à d'autres sports. On a fait le judo, on fait le badminton. Il y a eu du foot en salle.
C'est pour ça que je disais qu'il y a un gros problème niveau communication, niveau cyclisme, parce que quand vous faites le judo, il est plein. Vous faites une rencontre de judo, ils remplissent le vélodrome complètement. Vous faites du basket, ils remplissent complètement. Donc nous, on a vraiment un problème de communication.
Il y a eu du hand féminin et une fois de la boxe, je crois.
Voilà, donc on a vraiment un gros problème de communication de ce côté-là. Quel vélodrome, bon, après, qui peut servir à d'autres disciplines, au contraire. Base première, c'est le vélo, on n'arrive pas à le remplir. Donc on a vraiment un problème de niveau de communication de ce côté-là lorsqu'il y a des compétitions. Pas compliqué, lorsqu'on a eu la Coupe du Monde au mois d'octobre, on est à Rambouillet, on est à 20 km, aucune affiche Rambouillet. Comment voulez-vous faire venir les gens si on ne les informe pas?
C'est sûr. Les médias, enfin, on est au courant, mais ils auraient pu nous appeler, c'est nous qui.
Voilà, donc il y a vraiment.
Moins informé les auditeurs.
De ce côté-là, il y a vraiment un problème. Et puis même là, je vois pour la Coupe, on s'apercevait 3 jours avant la fin, 3 jours avant le début de compétition, il était rempli qu'à 60, même pas 45%. On aurait pu demander aux écoles de vélo de les inviter les jeunes, mais bon, ça ne s'est pas fait. Voilà, donc voilà des choses qu'il faudrait mettre en place.
Alors, on parlait de Saint-Quentin, il y a aussi le bicross, il y a aussi le VTT. Ça peut aussi, c'est d'autres activités du vélo, ça peut aussi être un jour une des activités de vos clubs.
Bah, du VTT, on en fait déjà plus ou moins.
Bon, ouais, c'est spécialisé aussi dedans.
Voilà, spécialisé un peu dedans. Bon, nous, avec Rambouillet, il y a le CTR qui ont une bonne... bonne section VTT, donc on ne voit pas non plus...
Eux, c'est plus leur spécialité.
Plus leur spécialité, donc on s'arrange, voilà, on est différents domaines, on s'entraide, on a deux associations qu'on s'entraide très bien, donc voilà, on n'essaie pas non plus de marcher sur la plate-bande des autres, et puis voilà, c'est très bien. Et puis,
Le bicross.
Et le bicross, le bicross à Saint-Quentin, il y a un magnifique stadium, hein, puisque ça doit être le 3e en Europe couvert.
Là aussi, il y a des épreuves, mais il n'y a pas beaucoup de communication.
C'est le même problème que la piste, le BMX, tout ça. Alors qu'ils ont un site magnifique aussi, et c'est magnifique à voir, hein, les compétitions de BMX, je peux vous dire. On est plus ou moins dans un stade couvert aussi, c'est magnifique à voir. On peut rester pendant 3-4 heures à regarder, c'est magnifique.
Alors Olivier, bon, vous êtes aussi un club qui a organisé beaucoup. Donc vous avez parlé d'Orphin, ça va être la première
saison. Donc le 31 mars Orphin,
sur le circuit. Changement d'heure, attention.
Changement d'heure ce jour-là, donc voilà, faire attention sur un circuit traditionnel. Donc on espère avoir un peu meilleur temps. C'est aussi une des raisons, c'est d'avoir changé la date, c'est de faire découvrir Orphin sous un nouveau jour, parce que malheureusement depuis 5-6 ans, les coureurs voient Orphin que sous la pluie ou le mauvais temps. Donc là, si on avait une journée comme aujourd'hui, ça serait magnifique.
Bon, 31 mars, ça sera le printemps. Alors,
voilà, on sera pas loin. Donc, c'est vrai qu'on a plus de chances d'avoir du beau temps le 31 mars que au début mars. Donc, si on avait une journée comme aujourd'hui, ça serait vraiment magnifique.
Et ensuite?
Ensuite, on va attaquer sur la Sud-Yvelines, qui va être beaucoup avancée cette année, qui sera le 11 et 12 mai.
Le 11 et 12 mai,
oui. Oui, parce que cette année, nous avons énormément de contraintes, hein, puisqu'il y a les élections européennes fin mai.
26 mai, oui.
Donc, tout ça perturbe le calendrier, puisque donc, le 26 mai. Beaucoup de
fêtes des maires, peut-être le référendum maires. Aussi. Donc
voilà. Donc il y a beaucoup de courses qui ne peuvent pas être organisées. Hein, 80% des manifestations ce jour-là sont annulées. Donc il y a tous les championnats qui découlent. Donc les championnats ont été obligés d'être avancés, tout ça. Donc nous, on se retrouve un peu avancés. Et aussi, vu les manifestations qu'on aura cet été, donc on a été obligés aussi d'avancer parce que les bénévoles, il faut pas non plus faut qu'on les respecte. Hein, il faut pas non plus les solliciter trop en même moment. Donc voilà.
Alors ça, c'est, j'allais dire, c'est l'événement phare hein, dans vos organisations, cette Ludivine. On a déjà un petit avant-goût de Tour de France à travers donc cette épreuve qui se déroule en 4 demi-étapes. On va rappeler quel vont être le programme de cette année 2019.
Normalement, on est en pleine construction, mais quasiment finalisation. Ouais. 2019, donc on sera sur Bullion.
Oui, donc prologue à Bullion le matin.
Prologue à Bullion le matin.
Oui, donc effectivement, on y revient à Bullion.
Voilà, hein, et on y revient à Bullion. Et puis l'après-midi, départ à Bullion. Puis là, on fera la remise de récompense à Bullion. Mais on ira sur aussi encore la salle des bords. Mais une montée de côte différente de celle de l'an dernier.
Oui, sacrée côte. Hein.
Oui, c'est l'an dernier, sacrée côte. Mais celle-là, celle qu'on aura cette année, apparemment, on dit qu'elle est un peu moins dure. Mais physiquement, je pense qu'elle fera aussi mal que celle de l'an dernier. Parce qu'elle est plus longue, elle est en plaine, donc voilà, mm-hmm, elle fera aussi mal à l'arrivée derrière. Donc ça sera pour le samedi. Le dimanche, on sera malheureusement, comme on a été obligé de changer de date, ça sera en même temps que la fête du Muguet.
Ah,
donc
oui,
on a été obligé de se décaler, de Rambouillet.
Ah oui, il y aura la fête du Muguet, il y aura l'hippodrome, il y aura tout
voilà,
ça quoi.
Donc
ah,
on sera plus sur Poigny, le contre-la-montre par équipe, Poigny en passant par Gazan.
Ouais, ça fait une belle course quand même.
Voilà, ça sera sur le parcours de la Gentleman, donc un parcours mm-hmm qu'on connaît bien. Et l'après-midi, on sera sur Rézeux pour Rézeux Béchereau pour faire le circuit final.
D'accord. Alors bon, une épreuve toujours sympa et qui joue toujours à une fraction de seconde en général. C'est quand même fou ça. Hein.
C'est fou hein, mais
quatre demi-étapes et puis hop, ça
fait
se joue de pas grand-chose.
Deux secondes. Ah ouais, une fois, on a eu même, je crois que c'était 20e hein, une chose une année qu'on arrivait à Clairefontaine, parce que bon, c'est les leaders, ils se concentrent, ils sont vraiment, je dirais comme à tour, hein, ils se maîtrisent. Et même si on a beau mettre des difficultés, hein, ils sont comme c'est un serrage à la culotte, et puis voilà, donc on arrive à des fois sur des circuits très durs, avoir 2 secondes, 5 secondes de différence sur à peu près pas loin de 180 km, hein, tout
au ouais. Alors ensuite, il y a d'autres épreuves.
Ensuite, donc, nous avons une compétition à Saint-Léger-en-Yvelines, au mois de juin.
Oui, celle-là aussi, c'est un classique.
Un classique, sauf que cette année, on va changer le parcours, puisqu'on va utiliser la grande route de Rambouillet-Saint-Léger et Saint-Léger-les-Brévières. Comme je disais tout à l'heure, niveau sécurité, ça commence à être trop dangereux. Hein. C'est une grande circulation, à 8h du matin ça va, à 9h ça commence à être compliqué, à 10h ça devient vraiment dangereux. Mm-hmm. Donc on était obligé de changer. On va revenir sur un circuit qu'on a fait il y a 10 ans, qu'on faisait pour les mini-mécadés, dans Saint-Léger, route des Grands Coins, un peu dans ce secteur-là. Une course qui avait été gagnée par Tony Galopin, je me rappelle, en cadet.
D'accord, ok. Donc une course de référence.
De référence, voilà. Tony, enfin, ce jour-là, Tony avait mis tout le monde à pratiquement 1 minute 30, donc là, c'était déjà ses premiers espoirs.
Ensuite, donc, à la rentrée.
Niveau compétition, oui, à la rentrée, il y aura la Gentleman.
Oui, alors ça, c'est une institution, hein. Voilà. Ça clôt la saison, pratiquement.
Ça, voilà.
Fin septembre, début octobre.
Retrouver, tout ce qui est compétiteurs, partenaires qui nous aident, dirigeants, bénévoles, sur cette journée conviviale, les élus qui nous aident aussi tout le long de l'année. Donc, voilà, c'est un moment compétition, mais festif, quoi, un peu de se rassembler, voilà.
Et puis vous avez perpétué cette tradition d'avoir pratiquement un gentleman, alors que beaucoup de gentlemen ont disparu, il n'y en a pratiquement plus aujourd'hui.
Oui, maintenant gentleman.
Et des grands noms sont venus en plus à Poigny.
Des grands noms sont venus. Là, on est même. J'ai vu justement la Coupe du Monde sur piste. J'ai vu Bernard Darniche.
Je
lui ai rappelé. Et donc Bernard Darniche, il y a de fortes chances qu'il revienne cette année.
Ah bien.
Parce que j'ai vu Bernard Darniche le faire gentleman de Poigny avec Gilbert Duclos-Lassalle.
Ah oui.
Cette année-là, ils avaient fait deuxième. Devant le deuxième, la troisième équipe, c'était Laurent Fignon avec, je me rappelle plus son entraîneur. Et la première équipe, c'était une équipe Daniel Leveau, Roger Godard. Donc, je me rappelle à cette époque-là, lui aussi s'en rappelle. Donc, on l'avait à Coupe du Monde et on se rappelait justement des gentlemen qui, à l'époque, il y avait la tournée gentlemen, une dizaine de gentlemen.
Ouais, alors que maintenant, excepté Poigny, il n'y en a plus.
Dizaine de gentlemen qui ont commencé début octobre et ça finissait fin novembre. Il y avait même des classements un peu de tous les gentlemen, donc c'était sympa. C'est vrai que, c'est un moment, ça revient un peu, il y en a quelques-unes, mais pareil, toujours problème des compétitions dans les compétitions.
Ouais, plus beaucoup, quoi. Puis les calendriers sont de plus en plus longs, voilà.
Les calendriers.
Alors que gentleman, ça meublait bien l'intersaison, quoi.
Voilà, ça finissait c'est la saison de route, donc voilà, c'était sympa, c'était après les différents championnats, voilà.
Et ensuite, vous faites un cyclocross, toujours? Vous
en
venez toujours?
Donc,
oui, Émancé.
Je fais toujours un cyclocross à Émancé, au courant novembre. Donc là, pareil, ça commence à midi avec les écoles de vélo, hein, on appelle les moustiques.
Ah bien.
Les moustiques 4 ans et demi qui commencent à faire un petit tour, après jusqu'aux élites, hein, qui partent à 15h15.
Mm-hmm.
Voilà. Ce sont donc, j'irais, c'est la fin de saison pour nous après ce.
Ouais, ça fait beaucoup de travail. Et peut-être un jour, on est prof sur piste. On parlait de la piste justement, peut-être ben, aussi. Rambouillet qui. Piste, voilà.
Hein. Bon, j'irais, c'est plus côté finance qui nous embête ben oui. Ce côté-là, mais bon.
Hein. On arrive à un tour. Une épreuve en novembre, décembre ou en janvier, pourquoi voilà, pas.
Bon, il y a déjà une coupe d'Île-de-France hein, sur piste hein, qui regroupe 5 clubs hein, qui commence début décembre et qui finit au mois de février. C'est 5 quoi, 4 compétitions et une finale à la 5e.
Ouais, c'est Vélizy qui le fait, hein,
voilà,
c'est ça.
Vélizy,
ouais,
ouais. Plutôt. Montigny et puis voilà d'autres clubs qui donnent un coup de main.
En tout cas, Olivier, il faut remercier vos bénévoles parce que ils sont là avec vous depuis des années et des années. La fidélité, c'est important.
C'est important la fidélité. On essaye de les remercier comme on peut. Hein. C'est difficile parce qu'on les utilise tous les dimanches, quoi, pas tous les dimanches, mais souvent les dimanches, le week-end. Et ben, j'irai, malheureusement, l'âge devient très ancien. On n'a pas beaucoup de renouvellement. Ouais. C'est ce qui va être un peu, j'irai, dans les années à venir, hein, l'un des premiers problèmes de différentes manifestations, pas que chez nous, hein, dans toutes les autres manifestations. Hein, le bénévolat a tendance à vraiment descendre, puisqu'on n'a pas de renouvellement des gens.
Alors, ouais, alors nous, quand on est arrivé à cette radio, il y avait Rambouillet, il y avait Poigny-la-Forêt, il y avait Cernay-la-Ville. Ce sont des clubs qui ont disparu, qui ont fusionné. Elle était nécessaire, cette fusion?
Bah, était forcément nécessaire parce que d'avoir des clubs de 4 coureurs d'un côté, 3 ouais. dirigeants de l'autre, ouais, ouais. nous avons fait hein, entre la fusion de Poigny et Rambouillet, c'est que d'un côté nous avions des coureurs, à Rambouillet il y avait des coureurs mais très peu de dirigeants et à Poigny on avait dirigeants, plus de dirigeants que de coureurs. Donc la fusion s'est faite obligatoirement. C'était vrai qu'à l'époque d'avoir plusieurs clubs, mais bon c'est pareil, on avait beaucoup plus de coureurs, beaucoup plus de compétitions, c'était plus facile. Je me rappelle, on en parlait encore avec Jean-Claude Davignon, qui était président de Rambouillet ou secrétaire. Mmh. À l'époque, ils organisaient pas loin de 22 courses ou 25 oui. courses dans l'année.
Donc cette fameuse nocturne hein, qu'on n'a jamais pu refaire.
Ben, c'est compliqué de refaire une ouais. nocturne sur Rambouillet et voilà, c'est les contraintes. Mais voilà, donc les dépôts de dossiers étaient beaucoup plus faciles à l'époque. On avait posé un dossier géré en début de semaine et on avait la réponse au milieu de semaine, c'était bon. Et on s'adressait d'ailleurs, à l'époque, on s'adressait directement à la préfecture du coin. Bon, c'était plus facile, je dirais. Donc, mais maintenant, le niveau compétition a diminué, le nombre de coureurs ont diminué. Bon, il y a beaucoup plus d'activités différentes. Maintenant, il y a plus de sports qui se sont ouverts aux gens. Oui. Les gens se sont ouverts à plus de choses. Bon, voilà, c'est une bonne chose dans la vie. Mais voilà, ça donne des contraintes de l'autre côté.
Oui, parce que pour trouver des dirigeants, pour solutionner ce problème de bénévoles, c'est peut-être là l'avenir. De plus en plus, les fusions.
Bah, les fusions, oui, mais même en fusionnant, on a du mal à réunir un certain nombre de bénévoles. Hein. Donc, et puis, j'irai, nous, notre difficulté encore en plus, comme tous les sportifs, tout ce qui est hors stade, c'est que ça consomme énormément de bénévoles. Je dirais, dans un stade, je ne veux pas dire que c'est plus facile, mais j'irai, c'est moins de contraintes. Je dirais, vous avez l'entrée à gérer, vous avez 2-3 choses à faire. Mais dans un bénévole, si vous faites un parcours comme à Bullion, un parcours de 20 km, ou nous, une course de cycliste, ça fait une trentaine, quarantaine de carrefours à gérer. Mmh. Donc, parce qu'on est obligé de le faire et on n'a pas d'aide. Et autant oui. au début, on pouvait avoir des aides gérées de la gendarmerie pour la sécurité, des pompiers, tout ça. Maintenant, bon, ils ont d'autres contraintes au niveau de l'activité. Ils ont beaucoup plus de choses à faire. Donc, ils peuvent plus être dédiés aux courses cyclistes. Donc, on les a pu. Mais nous, on a toujours la même contrainte au niveau sécurité. Donc, il nous faut encore plus de monde. Mmh. Voilà. Donc, mais la fusion, oui, se font, malheureusement, Il y a 20 ans, il y avait à peu près 40 clubs dans les Yvelines. Maintenant, si on est 12 clubs, c'est maximum.
Oui. Allez, musique et pub maestro, on y va.
Bienvenue au San Lazzaro. Venez déguster ses pizzas et le meilleur de la cuisine italienne dans un cadre convivial et accueillant, agrémenté d'un jardin d'hiver ou à emporter sur commande. Restaurant San Lazzaro, 103 rue Georges Lenôtre à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 05 77. Ouvert tous les jours sauf dimanche de midi à 14h15 et de 19h à 22h15.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération, à Sonchamp.
Au cœur de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold. Le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin, un buffet à volonté, fait maison, boissons comprises et soirée night club. Le dimanche, à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison, avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville. Réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02. 01 34 85 20 02.
Big Flo et Oli. Tu connais, non? Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux, que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai, et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard, mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard, mais on est plus tard, et je comprends pas. Plus tard, 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 plus tard.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Oui, cette émission, vous pourrez naturellement la réécouter en podcast, hein, comme toutes les émissions depuis le début 2019, et puis une grosse partie de nos émissions 2018. Olivier, on va vivre une année 2019 exceptionnelle à nouveau pour le vélo dans notre département, hein, aussi forte qu'en 2018. On va se rappeler qu'on avait eu des championnats de France en 2018 à Mantes, hein. Bon, c'était en plein mondial de foot, mais en tout cas, ça avait été un beau succès.
Un très beau succès, ouais. Magnifique, un beau circuit. On a eu un temps aussi magnifique, très bonne chaleur. Oui, au même moment que les mondiales de foot, je me rappelle même me retrouver à la fin d'une étape dans la salle de presse avec Jackie Durand et une cinquantaine de journalistes. Regardez,
c'était France-Argentine.
France-Argentine.
Ouais, on rentrait de Moscou, nous, mais bon, on avait envoyé notre ami Benjamin Pinault sur l'épreuve. Et c'était ce week-end-là.
Le championnat de France avait été avancé le départ, justement, pour que les gens puissent voir le match de foot. Donc ça a été très bien. C'est pas que c'est une bonne organisation. ASSO, quoi, le sport font que toujours on arrive à bien jumeler les deux. Mm-hmm. Non, c'était vous voyez, donc une bonne épreuve en 60, dans le 78, hein, à Nantes, le championnat de France.
Parce qu'il y a le Paris-Nice aussi, hein, chaque année depuis 2010. Et l'année dernière, on se rappelle un départ depuis ce tout petit village d'Orsonville, après une belle première étape entre Chatou et Meudon. Sans oublier la fameuse étape d'il y a deux ans, Bois d'Arcy, dans la vallée de Chevreuse, ça passait sur Cernay-la-Ville. Une étape dantesque, oui. D'anthologie
avec le vent, il y a eu de la bosse, la vallée de Chevreuse. Là, ASSO a vu que gérer la vallée de Chevreuse était un terrain propice pour faire de belles organisations.
4-5 groupes morcelés, ouais, enfin bon.
Ouais, et faire des écarts, déjà, la première étape, je me rappelle ce tour. Ce Paris-Nice, il y avait déjà des écarts au bout de deux étapes. Déjà, ça faisait une belle organisation.
Donc c'est une belle reconnaissance de voir le Paris-Nice qui est quand même qui lance véritablement la saison cycliste, être dans un haut lieu du sport cycliste, les Yvelines depuis 2010, c'est quand même pour les amoureux du vélo, pour les responsables de clubs cyclistes, c'est quand même une belle reconnaissance.
C'est en reconnaissance, hein, on le voit, puis on le dit, hein, même Christian Prudhomme le dit, même Bernard Hinault, j'ai eu l'occasion de parler avec lui. C'est vrai que le Sud-Yvelines est un lieu propice, hein, pleine forêt d'Yvelines, comme se situait avant. On a vraiment tout, hein, on a les plaines, on a la forêt, on a les côtes, on a le vent, on a tout ce qu'il faut. Vraiment un endroit magnifique pour faire du vélo, de la compétition. Nous, je vois même dans notre course à Sud-Yvelines, on a beaucoup de clubs qui sont très loin, de Gravenchon, de Bordeaux, qui reviennent à Gentleman parce qu'ils disent, vous voyez, c'est un terrain magnifique pour faire du vélo, quoi.
Alors, donc, cette année, on pourra aussi voir les coureurs. Il y aura une première étape, donc, qui emmènera de Saint-Germain à Saint-Germain, mais on pourra voir les coureurs du côté de Poigny-la-Forêt.
Tout à fait, puisque nous, on est mobilisés un peu pour assurer la sécurité pour la traversée de Poigny. Ils passeront sur Poigny le dimanche 10 mars.
10 mars, oui.
En environ de 13h, donc,
ouais. Juste avant le rugby, donc, ça tombe très bien.
Parfait. Donc, ils passeront, là, sur le coup de 13h, hein, sur Poigny-la-Forêt. Après, ils vont direction Rambouillet, mais ils vont bifurquer assez rapidement sur Saint-Léger. Et après, il retourne sur Saint-Germain-en-Laye.
Et puis le lendemain, une étape qui partira tout près d'ici, des Brévières.
Des Brévières, puis après direction Vallée de Chevreuse, et puis ensuite après Senlis, et puis ils vont retrouver, je crois, c'est du côté d'Orléans, je crois qu'ils
arrivent. Oui. Bon, c'est bien ces petits villages, hein, Orsonville, les Brévières, qui ressemblent le Paris-Nice, ou bien Rochechouart en Yvelines, il y a deux ans, même c'était beaucoup sous la pluie, mais c'est ça aussi le Paris-Nice.
C'est ça, c'est de venir au contact des petits villages, hein, puis les communes, hein, je me rappelle la dernière Orsonville, une grande motivation de tous les, madame le maire, et de tous les habitants qui étaient mobilisés, motivés pour faire cette, puis une très bonne journée, hein, j'étais sur place, ça s'est super bien passé, on a eu la chance aussi qu'il y ait fait un temps comme aujourd'hui, et pas mal de spectateurs, donc pour faire découvrir les recoins de notre région, c'est très bien.
Et puis Olivier, on va finir avec le must, le 28 juillet, hein, il va falloir prendre ses vacances sur Rambouillet, mais on en reparlera avec Gaël Barbotin, le 28 juillet, la dernière étape du Tour de France, comme en 2012, Rambouillet va être, sur le toit du monde.
Tout à fait. Hein,
et vous cherchez des bénévoles.
Et je cherche des bénévoles, puisque j'ai en charge de m'occuper de l'organisation sur Rambouillet, du côté bénévole, tout ce qui va être sécurisation. Donc on travaille avec ASSO pour les contraintes, ce qu'il va falloir faire, les différentes choses. Donc oui, on a besoin, un grand besoin de bénévoles ce jour-là. Hein. C'est une journée, le départ est différent de 2012, il sera beaucoup plus tard. En 2012, le départ était à 13h, là ça
c'est
sera
18h, je crois. Hein. Ouais.
18h, je pense, apparemment, c'est en cours d'évolution. Voilà, 18h, donc ça sera plus une mobilisation sur le dimanche après-midi. Mais bon, plus près des coureurs encore cette année, puisqu'avec l'expérience qu'on a eue de 2012, on s'est un peu orienté de ce qu'on a besoin. Donc voilà, donc énormément besoin de bénévoles. Hein. S'ils veulent venir nous rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer. Hein, je vais vous donner mon mail. Hein,
mais on va en parler régulièrement jusqu'au 28 juillet, de toute façon.
Hein, n'hésitez pas à me recontacter pour participer à cette journée. C'est un petit peu de travail, mais c'est de participer à une manifestation.
On s'en rappelle toute une vie, Olivier.
Il y a les gens de 2012 qui m'en rappellent encore. Hein, c'est de côtoyer des gens, de la population et le monde du cyclisme, c'est magnifique.
Oui.
Du travail, mais magnifique. Oui.
Bon, pour la passe de 5 pour Christopher Froome.
On verra. Maintenant, le tour est plus ouvert. Je dirais, il y a deux ans, on aurait dit ça. Maintenant, cette année, je suis pas sûr. Les équipes se sont bien remodelées. La diminution d'un coureur par équipe fait aussi peut-être les parcours.
Un duel Thomas Froome, hein, c'est annoncé. Hein.
Thomas Froome, mais justement, c'est peut-être ça qui va être l'avantage, c'est que ça va être un troisième larron qui va en sortir.
Ah, pourquoi pas?
Moi, j'aurais bien un Bardet ou un Pinot.
Ça serait bien. Alors, on les fait très sur Rambouillet.
Tout à fait, pour le centième maillot jaune. Donc, moi, je verrais bien ça, parce que je pense qu'il y a une possibilité, hein, il y a une ouverture. Autant il y a quelques années, on aurait dit non, c'était pas la peine, juste pour les victoires d'étape. Mais là, je pense qu'il y a une possibilité, un classement général. Les équipes AG2R et la FDJ, quoi, Groupama, FDJ, maintenant se sont vraiment bien dotés, construits. On le voit sur les premières épreuves. Là, cette année, on constate que ben, ces deux équipes ont constitué une grosse équipe hein, autour des leaders. Ils sont présents. On a l'impression de voir la Sky d'il y a 8 ans. Donc voilà, ça se constitue. Je pense qu'ils peuvent arriver bien armés au Tour de France, malheureusement. L'année dernière, AG2R était bien lancé, mais ils ont eu des problèmes en début de première semaine. Ils ont perdu 3 coureurs, donc c'était déjà fini pour eux. Mais avec l'équipe, s'ils avaient conservé l'équipe, je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup plus de mal.
En tout cas, donc on va parler naturellement de ce qui attend les amoureux du sport et sur Rambouillet jusqu'au 28 juillet. On en parlera jusqu'à cette date-là hein, régulièrement dans nos émissions. On tiendra au courant de l'évolution de la situation et on l'a dit. Donc s'il y a des bénévoles qui vous contactent, il n'y a aucun problème.
Hein, via la mairie
sur le site internet ou à la mairie, voilà.
Sur le site internet ou même ils passent par la radio et ils donneront facilement mes contacts. Il n'y a pas de souci.
Très bien, Olivier. Merci. À très bientôt.
À très bientôt.
Pour la suite divine et puis bah, pour le Tour de France.
Tout à fait, merci à vous.
Voilà, merci en tout cas donc d'avoir été notre invité ce matin. Merci à Bastien hein, qui a tenu encore une nouvelle fois haut la main cette émission. N'oubliez pas, il a une nouvelle émission de jazz, donc on peut terminer donc le dimanche et le week-end avec cette émission tous les soirs à partir donc de 22h. C'est ça. Voilà, tous les dimanches soirs à partir de 22h. Allez, bon dimanche à toutes et à tous. Finissez bien ce week-end, il fait beau, donc profitez-en, faites du sport et nous on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 24 février, 10h-11h. Salut, bon dimanche.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, même le dimanche, les Gilets jaunes vont de nouveau manifester aujourd'hui dans les rues de Paris, départ à 11h de l'Arc de Triomphe, histoire de marquer les 3 mois jour pour jour de leur mouvement. Hier, dans la capitale, ils étaient plus nombreux que la semaine dernière, 5000 environ, pour un total national plus faible, 41 500. Mais ces chiffres officiels de Beauvau sont contestés par les manifestants. En province, comme l'ancien d'un député de La République En Marche a été entièrement saccagé, et à Paris, où le philosophe Alain Finkielkraut a été abreuvé d'injures à caractère antisémite, c'était dans le quartier de Montparnasse. Les injures condamnées d'ailleurs par Emmanuel Macron, jugeant dans un tweet qu'elles sont la négation absolue de ce que nous sommes et de ce qui fait de nous une grande nation. En Catalogne, pas de contestation sur l'ampleur de la manifestation des indépendantistes. C'est une marée humaine de 200 000 personnes qui a déferlé hier.